Amnesty International est un mouvement mondial réunissant plus de 7 millions de personnes qui agissent pour le respect des droits fondamentaux de chaque individu. Nous agissons dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Solidarité, impartialité, indépendance sont nos grands principes.
Tous auditeurs, auditrices des radios Vassivières, je m'appelle Nini Vijegas et je me réjouis d'accueillir Sabine Kiffer et Dominique Duranton au micro des Royères de Vassivières. Salut les filles.
Bonjour Nini.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter comment travaille Amnesty International. Vous dites inquiétée, mais c'est-à-dire?
Eh bien, disons que en fait, le travail d'Amnesty International, c'est enquêter, alerter, agir. Trois mots. Alors, enquêter, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a plus de 100 équipes de chercheurs qui couvrent 150 pays et qui se mobilisent partout dans le monde pour accéder au terrain et rencontrer les victimes des violations des droits humains. Elles rassemblent, recensent, regroupent les témoignages, les preuves pour produire en toute indépendance et impartialité des informations vérifiées et fiables.
Dominique, tu pourrais nous dire comment cela se passe sur le terrain?
Oui, bien sûr. Mais alors, le mieux, c'est de donner la parole à Donatella Rovera, qui est chercheuse pour Amnesty International, experte des situations de crise. Elle enquête depuis de longues années sur les crimes de guerre partout dans le monde. Elle est allée en Algérie, en Libye, en Syrie, au Soudan, en Ukraine, en République démocratique du Congo. Et voici quelques extraits d'un entretien avec Donatella, chasseresse de criminels de guerre. Et à la question « Comment cela se passe sur le terrain ?», elle répond « Chaque situation est différente, mais la méthodologie de travail est toujours la même. Faire du porte-à-porte, trouver les survivants et les familles des victimes, recenser les personnes décédées, etc. Je collecte un maximum de témoignages, ceux des survivants, des témoins des événements et des personnes alentours. Mais les témoignages, eux seuls, ne sont pas suffisants. Il faut ensuite vérifier, recouper avec des images satellites et tout le matériel disponible en open source, c'est-à-dire en libre accès vidéo, photos, etc. Et les preuves matérielles qui se trouvent sur les lieux sont déterminantes. Les lieux racontent-ils la même histoire que les témoignages? Y a-t-il bien des signes d'explosion de grenades ou d'obus? Y a-t-il des restes de munitions ou pas? Si oui, lesquels? Il faut apporter des réponses à toutes ces questions.
Vous reconstituez donc les événements, mais dans quel but?
Le but est de comprendre quelles violations ont été commises et qui sont les victimes. C'est essentiel pour établir s'il y a eu ou non violation du droit international humanitaire et pour déterminer le type de violation dont il est question. Si on enquête sur des bombardements, s'agit-il d'une attaque délibérée contre des civils, disproportionnée, indiscriminée? Pour faire la différence, il faut connaître les circonstances précises dans lesquelles se sont déroulés les événements. Il est important d'aller chercher l'information le plus rapidement possible avant que les preuves matérielles ne soient détruites et que les témoins oublient certains détails.
Alors, à quoi servent les éléments des preuves que vous documentez?
On documente les faits parce qu'il faut qu'on en soit témoin, que ça se sache. En rendant publiques nos informations, on peut contribuer à ce qu'un jour, les responsables de ces crimes internationaux soient traduits en justice et mis face à leurs actes et à leurs responsabilités.
Et quelle est la différence entre votre métier et celui d'un journaliste?
C'est différent dans la mesure où Amnesty International, nous enquêtons sur les violations des droits humains, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, alors que les journalistes, eux, couvrent différents sujets. Ainsi, l'objectif principal de notre travail n'est pas la publication, mais c'est d'établir les faits.
Il existe donc aussi une guerre de l'information.
Ah oui, la guerre de l'information, la désinformation, la propagande. Je crois que je n'ai jamais travaillé dans une guerre où ça n'existait pas. Le risque de manipulation existe toujours. Face à cela, il faut s'en tenir à la méthodologie. C'est simple, si on n'a pas pu vérifier une information, on ne l'utilise pas. Amnesty International a ainsi pu démontrer l'utilisation d'armes françaises contre les populations civiles au Yémen lors des manifestations en Égypte, au Liban. Bien sûr, ce travail de recherche étant réalisé, les faits étant établis, il faut alerter la communauté internationale pour faire changer les lignes.
Sabine, comment fait Amnesty International pour alerter ?
Nous dénonçons les actions des États, des groupes armés, d'entreprises qui bafouent les droits humains, en publiant chaque année plus de 70 rapports pour avertir les médias, sensibiliser l'opinion publique. C'est par exemple le rapport qui dénonce la politique d'apartheid commise par l'État d'Israël à l'encontre des Palestiniens. C'était paru en février 2022. Ce sont plusieurs autres rapports dénonçant les violences policières en France. Le rapport dénonçant les violations des droits de l'homme dont sont victimes les Ouïghours de la part de la Chine. Des rapports sur l'Iran, etc. Amnesty International, s'appuyant sur les résultats de ses recherches, joue un rôle consultatif auprès de l'ONU, des institutions européennes, des parlementaires français. Amnesty a ainsi participé à l'élaboration de la Convention internationale des droits de l'enfant, au traité sur le commerce des armes, à la création de la Cour pénale internationale. Plus de 70 sections et structures d'Amnesty International relaient l'information dans le monde. Tous les jours, Amnesty publie des communiqués de presse, des posts, des vidéos sur les réseaux sociaux. Les militants organisent des centaines de débats, de projections, de films.
Une fois qu'on a alerté, il faut agir et faire agir comment ?
Nous menons des opérations de plaidoyer et des campagnes. Les objectifs des plaidoyers étant de sensibiliser et d'influencer, de nouer des relations avec un milieu de décideurs, d'encourager à ce qu'une campagne soit soutenue publiquement. Les campagnes ciblent les États, les organisations intergouvernementales, les groupes armés et les entreprises. Notre but est de faire pression pour influencer les décisions en faveur des droits humains et obtenir des changements concrets. Nous avons des campagnes annuelles sur la torture, par exemple, la liberté d'expression, sur les populations réfugiées et migrantes, les Roms. Et en ce moment, Amnesty a commencé une campagne sur le droit de manifester. Campagne qui est motivée par le recul du droit de manifester partout dans le monde. Cette campagne doit durer 5 ans. Chaque année, des centaines de rendez-vous sont pris avec des pouvoirs publics. Près de 2 millions de courriers dans le monde sont envoyés aux autorités, mais aussi nous envoyons des messages de soutien, des pétitions pour des personnes victimes de graves violations des droits humains. Nous avons aussi près de 700 actions urgentes, c'est-à-dire des interpellations pour des personnes en danger immédiat, donc il faut agir très vite. Ces actions sont relayées grâce à un réseau de 170 000 personnes dans le monde. En France, nous sommes plus de 120 000 membres et il y a près de 400 structures militantes qui relaient toutes ces actions.
Mais est-ce que tout cela sert à quelque chose, Sabine ?
Oui, bien sûr. Ce sont 40% de nos actions qui débouchent sur des résolutions ou des avancées et nous obtenons un bon nombre de libérations chaque année de personnes emprisonnées injustement. Voici quelques-unes de nos victoires pour l'année 2022.
Bernardo Calzo, défenseur des droits des populations autochtones et de l'environnement au Guatemala, a été libéré en mars dernier.
Rami Saha, militant égypto-palestinien, libéré en janvier 2022 après 2 ans et demi de détention arbitraire.
Le professeur Fezullah Jalal, en Afghanistan, maître de conférence à l'université de Kaboul, détenu pour avoir critiqué les talibans sur une chaîne d'information, a été libéré.
Au Soudan, Magay Matiop Gnong, condamné à la peine de mort à l'âge de 15 ans, c'était un des cas de 10 jours pour signer en 2019, a finalement été libéré en mars 2022. À noter que la peine de mort recule dans le monde. En 2022, elle a été abolie au Kazakhstan, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République Centrafricaine, en Guinée équatoriale et en Zambie. C'est une tendance vers l'abolition universelle de la peine de mort qui se confirme.
En Russie, l'artiste russe Yulia Zvetkova risquait 6 ans de prison pour des dessins de nudes féminins. Elle a été acquittée en novembre.
En Turquie, la condamnation de 4 défenseurs des droits humains en procès depuis 2017 a été annulée. Parmi eux, Taner Kilic, président honoraire d'Amnesty International Turquie, et İzil Ezer, ex-directrice d'Amnesty Turquie, qui sont 2 fondateurs d'Amnesty International Turquie.
Des auteurs des violations des droits humains ont dû rendre des comptes.
En janvier, un tribunal allemand a condamné Anwar Raslan, ancien responsable des services de renseignement syriens, à la réclusion à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Il a été reconnu coupable de torture, viol de détenus.
En juin, un tribunal a enfin rendu justice partielle pour les meurtres en 2016 de Berta Cáceres.
En novembre, le FBI a informé le gouvernement israélien qu'il mènerait une enquête sur l'homicide en mai de la journaliste palestino-américaine Shirin Abu Akleh par un soldat israélien.
Alors vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez agir, mais comment ? On vous invite à signer les pétitions sur amnesty.fr ou participer à la campagne 10 jours pour signer qui a lieu tous les ans autour du 10 décembre. Et pourquoi pas en rejoindre les groupes Creuse Amnesty International. Sabine, pourrais-tu nous parler de cet appel à action ? C'est quoi l'action que tu proposes aujourd'hui ?
Alors il s'agit de Zigem Mater Uktu, productrice et journaliste turque. Elle a été condamnée à 18 ans de prison en avril 2022 pour des accusations sans fondement. Son emprisonnement est l'un des exemples les plus graves et les plus criants de la dégradation constante de la situation des droits humains en Turquie. Donc vous pouvez la soutenir pour lui montrer qu'elle n'est pas seule en lui envoyant des messages de solidarité sur actionurgente@amnesty.fr. Merci.
On se bat ensemble, on gagne ensemble. Donc rejoignez le groupe Creuse, creuse@amnestyfrance.fr ou 05 55 64 26 84.
Et vous, chers auditeurs, auditrices, vous pouvez écouter, podcaster tous ces rendez-vous avec Amnesty International sur radiovassivière.com. Merci Dominique, merci Sabine pour ce moment de partage radiophonique. Et on se dit à très bientôt.
Merci beaucoup.